Comme un commun avec Interphase.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Comme un commun. Comme un commun, cette fois-ci, nous serons vraiment orientés sur la question des communs urbains, une manière de revenir sur plusieurs événements et de mettre en perspective l'année 2018 autour de communs et villes, communs et urbanisme, le point focal sur lequel Interphase se concentre autour de cette émission. Nous aurons certainement d'autres occasions en 2018 néanmoins de revenir sur la notion de contribution, sur la notion de plateforme numérique, ainsi que nous avons pu en parler lors de l'émission du mois dernier. Donc pour vous rappeler un petit peu la perspective générale de Comme un commun, l'objectif est bien évidemment de vous parler des communs, de vous sensibiliser à cette question, de vous donner envie de voir ailleurs ce qu'il en est, de comprendre comment cela se met en place, mais aussi de comprendre l'implication des uns et des autres. Alors en termes d'implication, il nous a semblé important de faire un petit focus sur des interviews avec certaines personnes dans le cadre de cette émission-ci, avant de mieux vous faire découvrir lors de la prochaine émission, un temps spécifique avec des contributeurs au commun dans la région. Pour cette émission particulière, il était intéressant de revenir sur les Roomix qui se sont tenus le mois dernier à la Condition publique à Roubaix, où nous avons eu la chance de rencontrer Michel Bowens, qui est un philosophe particulièrement attaché à la question des communs, sur laquelle il travaille depuis plusieurs années, et avec lequel nous avons pu visiblement revenir sur la question de la contribution. La contribution qui était une des terminologies phares des Roomix du mois dernier, pour mieux comprendre comment les contributeurs au commun peuvent véritablement vivre de leur engagement. Une question phare, une question complexe, à laquelle il était important de prendre du temps pour véritablement discuter ensemble de comment on peut envisager un autre modèle, comment on peut construire cet autre modèle et par quel mécanisme il doit pouvoir être mis en place. L'idée était de discuter avec Michel Bowens qui revient spécifiquement sur la réalité lilloise des communs et de découvrir à quel point les communs lillois sont des communs véritablement pertinents à l'échelle de notre territoire régional mais également à l'échelle européenne. L'objectif de l'émission d'aujourd'hui nous permettra de revenir spécifiquement sur Lille dans l'Europe et Lille dans le monde en faisant justement la part belle aux témoignages qui peuvent nous faire comprendre la réalité ailleurs en Europe et ailleurs au-delà de l'Europe avec différentes interventions.
Je suis le fondateur d'une association, la Fondation pour les alternatives pair à pair. Et j'ai aussi un contrat pour le moment avec Smart comme conseiller, donc c'est une mutuelle de travail. Mon premier job, donc la fondation, c'est un observatoire des pratiques des communs. Donc toutes les pratiques qui sont ouvertes à tous, participatives et qui créent du commun, donc qui créent des ressources partagées. Par rapport à la Smart, c'est plutôt un travail autour de la précarité, donc comment organiser les travailleurs précaires. Et donc surtout une catégorie nouvelle, à mon avis, c'est les travailleurs salariés autonomes. Avant, on avait le choix entre indépendant, qui est plutôt presque une notion d'entrepreneur, et un travailleur subordonné avec un contrat de travail. Et donc cette idée d'être salarié, mais en même temps autonome, m'attire beaucoup.
Ce qui veut dire que les travailleurs autonomes sont potentiellement des contributeurs au commun et réciproquement ?
Oui, donc dans l'ancien mode de travail, on était ensemble, salariés dans des gros endroits physiques, donc on crée des syndicats, etc. Aujourd'hui, on est des travailleurs de projet. Et on est nomade en fait, hein, pas nécessairement physiquement, mais nomade au niveau des projets. Et donc notre lieu, c'est des lieux virtuels en fait. C'est les réseaux qui nous permettent de nous connaître, de nous assembler. Donc je crois qu'il y a un lien fondamental entre la notion de commun, des communs digitaux d'abord, des communs de connaissances, et d'être travailleur indépendant et précaire. Et évidemment, comme on vit aussi dans des lieux, il y a la notion des communs urbains, donc mutualiser tous les moyens de vie pour pouvoir abaisser les coûts et surtout aussi pour alléger le poids de l'humanité sur la Terre. Donc il y a tous des thèmes qui sont convergents autour de cette notion de commun.
De quelle manière peut-on vivre des communs pour reprendre l'intitulé des Roomix 2017 ?
Je crois que la logique est un peu différente. Donc la logique classique, c'est je vais essayer de trouver un travail et si j'ai de la chance, je vais faire un travail qui me plaît. La logique du commun, c'est plutôt qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui, vraiment, je dirais même pour sauver la planète. Quel est mon engagement qui peut générer de l'énergie, la passion? Et comment est-ce que je peux créer avec d'autres autour de cette activité des revenus? Et moi, je crois que la logique est assez simple finalement. Où il y a commun, il y a communauté. Et où il y a communauté, il y a économie. Mais donc, il faut d'abord prendre le risque de créer le commun. Et puis, en fait, le travail communautaire va montrer de quelle façon on peut être utile et de quelle façon on peut obtenir des revenus. Voilà, donc je crois que c'est un peu plus difficile hein, que les start-up et tout ça, où on a un business model au départ, mais c'est quand même possible. Et les communs sont aussi très efficaces, donc c'est-à-dire qu'on peut faire des choses. Quand on mutualise, on peut faire de l'habitat, de la mobilité, de l'alimentation à des prix imbattables par rapport à l'économie capitaliste. Et donc ce surplus, on peut le réinvestir dans le collectif et dans notre bien-être. Donc c'est un peu le modèle pensé au monastère au Moyen-Âge. C'est une période que j'ai un peu étudiée. Hein, donc les moines, ils sont intéressants parce qu'ils vivent comme l'élite, mais au coût des pauvres. Donc en mutualisant leurs connaissances et leur infrastructure collective, et ils peuvent générer un surplus qui crée un bien-être avec des très beaux bâtiments, une vie culturelle riche, une vie spirituelle riche. Donc c'est un peu un modèle intéressant à étudier, je trouve.
Alors, je reprends certains termes que vous venez d'utiliser. Sauver le monde, le titre d'un de vos livres, le Moyen-Âge. Alors, est-ce que sauver le monde, ça voudrait dire retourner dans le passé, voir ce qui s'y est passé? Ou est-ce que les solutions, finalement, sont au sein de chacun d'entre nous?
Ben les deux. Hein. Donc, l'idée du passé, c'est évidemment pas pour copier les modèles du passé, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, quand on est dans un homme de la Renaissance, une femme de la Renaissance, la Renaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vivaient dans un système distribué et fragmenté, qui était le Moyen-Âge, regardaient Rome comme exemple. Et donc, la Renaissance était une recentralisation, les États-nations, les grandes entreprises, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, on met en cause la centralisation. On veut plus de structures distribuées. Et donc, quand on se pose la question, est-ce qu'il y a eu des civilisations où tout était distribué? Ben oui, c'était au Moyen-Âge. Donc, il y a beaucoup de leçons, éventuellement, de... Quand on étudie le Moyen-Âge, on peut voir des dynamiques qui sont en train de se remettre en place parce qu'on va vers une ère de souveraineté fragmentée, donc où le pouvoir d'État s'effrite, où il y a des grandes entreprises qui dominent le monde, mais en même temps, il y a une relocalisation aussi. Donc il y a un nouveau pouvoir qui se met en place dans les villes et dans les communautés productives autour des communs. Donc c'est une période très intéressante, on ne sait pas tout prédire, mais on sait que les modèles distribués, donc avec un pouvoir plus diffus, sont en fait semblent plus ou moins où le monde est en train d'évoluer.
Et à notre échelle, sur nos territoires, vous disiez là que vous étiez sur une mission en Belgique. Il y a un travail particulier que vous menez sur la ville de Gand. Gand n'est pas bien loin de Lille. Sans avoir la possibilité de se documenter sur ce qu'il existait au Moyen-Âge, il semble qu'il existe beaucoup de choses à proximité de chez nous. Pourriez-vous nous donner quelques exemples?
Oui, alors on a fait une étude, d'abord une cartographie des communs urbains, et ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a une croissance exponentielle, donc 10 fois sur 10 ans, des communs urbains à Gand, mais aussi en Flandre et aux Pays-Bas et en Catalogne. Donc il y a eu plusieurs études qui confirment ça. À Gand en particulier, on a pu voir que dans tous les systèmes d'apprivoisonnement, il y a des communs aujourd'hui. Il y a des modèles orientés communs pour la mobilité, pour l'habitat, pour l'alimentation, surtout pour l'alimentation. Donc, qui sont déjà opérationnels, qui fonctionnent, qui sont évidemment marginaux et émergents, mais qui montrent qu'on peut créer une économie qui est en même temps durable et solitaire et basée sur un partage de la connaissance. Et donc il n'y a pas une fonction, un domaine à Gand qui n'y a pas déjà une sorte d'écosystème minimal qui travaille autour du principe des communs. Et le travail en particulier que j'ai fait pour la ville de Gand, qui était mon client, hein, c'était consultant, c'était de faire un design pour la coopération entre la fonction publique et le commun. Donc comment est-ce que l'État, la ville, la région peut travailler avec les communautés des commoneurs et comment peut fonctionner une démocratie contributive. Donc il y a la démocratie représentative, on élit quelqu'un et qu'il a un mandat. Il y a la démocratie participative où on demande au peuple d'une façon plus directe qu'est-ce que vous voulez. Mais il y a aussi une démocratie contributive où le fait de pouvoir créer une économie durable qui ne détruit pas la terre donne une sorte de légitimité aux gens qui font cette transition. Et là où la ville et le marché, donc l'État et le marché sont en manque aujourd'hui, donc il y a une légitimité pour dire voilà, on va honorer les citoyens qui font ce que nous déclarons vouloir mais qu'on ne fait pas. Et donc ça c'est un peu une mécanique top-down, je veux dire bottom-up, parce que ça force la ville à s'adapter aux pratiques citoyennes et de donner aux voix aux citoyens qui sont en train de changer la société.
Merci beaucoup pour toute cette présentation. Ça nous donne envie de venir voir quelques-uns des communs qui sont à Gand. Est-ce que des communs en région lilloise, en région métropolitaine, vous en connaissez? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent à l'esprit? Est-ce que vous avez envie de connaître mieux ce territoire sur lequel il semblerait que des choses se mettent en œuvre?
Je vais peut-être vous étonner, mais pour moi, Lille, c'est un peu le Vatican des communs. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, il y a évidemment des communs urbains comme à Gand, mais surtout au niveau de la gouvernance et du droit du commun, je trouve que Lille est vraiment un exemple phare. Donc il y a l'Assemblée des communs qui a fait des travaux remarquables sur la relation entre le commun et le marché, le commun et l'État, avec des chartes sociales, avec une comptabilité contributive déjà très sophistiquée. Et ça, je n'ai pas trouvé à Gand, par exemple. Donc je crois qu'il y a moyen, les Lillois peuvent sûrement apprendre sur la richesse des systèmes logistiques, par exemple à Gand, mais les Gantois vont sûrement pouvoir apprendre au niveau de la gouvernance des communs qui existent à Lille.
Thank you.
Merci Avishai Cohen pour cette Song for My Brother.
Vendredi, 10h-11h, c'est comme un commun.
Nous revenons sur la question des communs urbains. Après avoir écouté Michel Beauwens nous parler de ce laboratoire qu'est Lille, il nous semblait important de vous montrer que Lille n'est pas le centre de l'Europe et qu'il se passe beaucoup d'autres choses ailleurs sur cette question des communs urbains. Alors là, l'idée, c'est véritablement de faire un peu un écho à un projet qu'Interphase vient de porter sur la question de la régénération des friches industrielles et de la mobilisation que les jeunes en Europe peuvent avoir autour de cette question. Pourquoi ? Puisque, tout simplement, pour Interphase, l'idée est que les friches industrielles sont un de ces possibles, sont un de ces possibles communs urbains. Et que, eu égard le nombre de friches que nous avons dans la région, rien que sur la métropole européenne de Lille, il nous semblait intéressant de mettre cela en perspective avec d'autres territoires, hein, d'autres territoires avec lesquels Interphase a déjà eu l'occasion de travailler, ou avec lesquels, en lien avec les villes partenaires de Lille, il nous semblait intéressant de questionner la réalité des friches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nous avons eu la chance d'accueillir en fait 4 groupes de jeunes issus de 4 villes européennes que sont Leeds en Angleterre, Berlin en Allemagne, Bucarest en Roumanie et Turin en Italie, pendant toute une semaine autour de la question quel avenir pour les villes industrielles ? Quelle nouvelle vie pour les villes industrielles. Et en posant cette question, on avait en tête en fait de laisser la parole aux jeunes générations issues de ces territoires-là, et donc nous avons eu la possibilité de rendre cet échange possible grâce à un échange Erasmus+. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un programme européen qui permet d'échanger des points de vue entre des jeunes qui ont entre 13 et 30 ans sur des réalités européennes, sur plein de thématiques très différentes. Là, notre focus, il était extrêmement clair. Il visait à questionner la réalité de la mobilisation que les jeunes peuvent avoir dans leur ville par rapport à cette question très particulière qui est quelle mobilisation pouvons-nous avoir, quelle mobilisation nous laissons-nous sur ces friches et comment on en fait finalement un possible commun urbain. Donc pendant toute une semaine, Interphase a proposé un programme sur la métropole européenne de Lille, essentiellement sur Lille, mais on ne pouvait pas donner à voir la réalité de notre territoire sans aller faire un tour à Roubaix, à Tourcoing, découvrir tant la pleine image que les réalités de la Lainière ou bien évidemment les réalités roubaisiennes qui sont d'ailleurs parmi celles qui ont le plus séduite notre audience de jeunes. Donc on a eu la chance d'accueillir en fait 7 jeunes par pays qui étaient chacun accompagnés par un leader. Dans le cadre de cet échange, le groupe d'Allemands avait par ailleurs eu la pertinence de faire venir un groupe de Chinois. Donc on avait vraiment un échange qui, au-delà d'un échange européen, s'est conclu par un échange interculturel extrêmement riche, où on a eu la possibilité, au-delà de faire des découvertes de territoires et de terrain sur notre métropole, l'occasion également d'échanger sur les réalités de leur territoire. L'échange a été extrêmement fort et on a déjà en tête d'envisager de nouveaux événements, notamment en lien avec les prochaines grosses échéances qui peuvent se passer sur notre territoire. Je pense notamment à Lille, capitale mondiale du design en 2020, où évidemment des profils d'urbanistes, d'architectes, de designers sont fort intéressés à l'idée de revenir contribuer à ce que peut être Lille en 2050. Et donc plusieurs perspectives sont déjà envisagées, notamment la possibilité de créer un temps fort autour de réalités qui pourraient être proposées sur des friches, un peu sur le principe d'un muséo mix, mais qui serait consacré aux friches. Comment on pourrait, dans le temps d'un week-end, réfléchir à l'avenir à proposer sur une friche en proposant des équipes, en fait, qui soient des équipes pluridisciplinaires, qui rassemblent des compétences extrêmement différentes et variées. Mais là, on est déjà dans une perspective 2020, et il faut avouer que la réalité de notre échange et la volonté de créer et de fédérer un réseau vraiment de professionnels est ressorti extrêmement vivement à l'issue de cette semaine et que ben voilà, on a vraiment décidé de faire des choses très rapidement puisque on envisage déjà de faire quelque chose dès 2018 à Leeds pour la bonne et simple raison qu'en 2018 Leeds pourra encore nous accueillir mais qu'après 2018 eh bien l'Angleterre, Brexit oblige, ne pourra plus s'engager dans les programmes européens. pas même dans les programmes européens de jeunesse, ce qui pose bien évidemment énormément de questions pour cette jeunesse anglaise qui n'a pas voulu du tout de ce Brexit et dont on a eu l'occasion de reparler maintes et maintes fois dans le cadre de cet échange, puisque quand on parle des problématiques autour de l'urbanisme et notamment des mobilisations citoyennes autour des friches industrielles, il ressort qu'une des spécificités françaises est quand même un accord entre nos politiques, enfin nos différents échelons et la population, ce qui n'est pas le cas dans d'autres territoires et ce qui notamment dans le cadre de la réalité anglaise pose de grosses questions, puisque il n'y aura plus d'ici très peu de temps de financement européen, il n'y a que les financements au niveau des cités, des villes, et du coup, quelle place pour d'autres possibilités d'investissement qui puissent véritablement envisager de construire la ville autrement qu'en laissant juste la ville, l'entité ville, décider en lien peut-être avec les habitants. Donc il y aura véritablement un enjeu pour les Anglais autour de cette question. Par rapport à la question de la mobilisation de la jeunesse, c'était également un échange extrêmement fructueux, puisqu'on se rend compte des réalités extrêmement différentes sur la mobilisation, sur l'implication, sur la participation dans l'ensemble de ces pays. Pays, comme je le rappelle, qui sont extrêmement variés, puisque Angleterre-Allemagne, on n'est pas du tout sur les mêmes modalités d'implication que ce qu'on peut les avoir en France, mais qui ne sont pas non plus les mêmes en Roumanie ou en Italie. La Roumanie, avec la particularité qu'on est dans un pays qui n'a pas vécu la révolution industrielle de la même manière que celle que nous avons vécue en France, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, mais qui a vécu une révolution industrielle forcée pendant la période communiste. Ce qui n'amène pas à la même réalité sur la transformation de ces friches, puisqu'elles ne sont pas non plus de la même époque. Donc on est dans une réalité qui n'est pas extrêmement similaire, mais qui a permis aussi de poser les jalons de quelle implication aujourd'hui ces jeunes peuvent avoir et quelle implication on leur laisse avoir. Et dans le laisser avoir, se pose véritablement la question de l'implication. Et cette implication, elle est fortement liée à la possibilité de s'exprimer, à l'empowerment, qui n'est absolument pas le même partout. À ce titre, il nous a semblé intéressant de prendre un temps d'échange spécifique avec une de ses participantes. Quelques-uns parlaient français, la plupart bien évidemment étaient en anglais ou dans d'autres langues. On a choisi de prendre le temps d'interroger Chiara Basile, qui est italienne originaire de Turin qui revient un petit peu sur cet échange, sur son parcours et sur spécifiquement son lien au commun.
Je suis Chiara Basile, je viens d'Italie. Je suis ici maintenant à Lille pour un échange qui a été très intéressant sur les friches urbaines et leur transformation. Et bon, moi à la base je suis architecte et je suis en train de faire une thèse sur des questions urbaines et ça a été un plaisir d'être ici.
Est-ce que ça t'a permis d'enrichir peut-être ta thèse, de travailler sur cette semaine d'échange?
Ça a été très intéressant pour moi pour me connaître d'une façon différente à la ville, parce que de faire une thèse c'est très intéressant au niveau analytique et d'investigation, mais moi j'aime bien aussi de penser les choses dans des termes réels et de bien toucher les changements, donc ça a été très important pour moi.
L'échange se termine en fait ce soir. On a plusieurs perspectives qu'on a abordées aujourd'hui. Tu nous fais un petit retour de ce dont on a parlé.
Le résumé qu'on a fait aujourd'hui, c'était de cette semaine qui a été très pleine de stimulus et de réflexions. Et on a bien parlé de ce qu'on a appris, mais aussi de comment suivre avec les connaissances et le network qu'on a créé. Et je crois qu'il y a très bien de thèmes à développer, qu'on pourra développer. Et je crois que ça sera important de bien retenir le lien entre les gens et de bien connecter de réflexions parfois théoriques à des actions. concrète.
D'accord. Oui. L'idée de ce séminaire européen, c'était donc de parler de la régénération des friches, de leur transformation et de l'implication des jeunes dans ça. Alors du coup, moi j'ai deux questions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la question de la transformation des friches à Turin, d'où tu viens ? Et en même temps, est-ce que tu as l'impression que cette transformation des friches à Turin, elle est liée à la question des communs dans lesquels les jeunes, est-ce qu'ils y ont une place ? En fait, ça fait même trois questions pour ça.
Donc oui, à voir. Pour ce qui concerne la première, ouais, bien, je viens de Turin, que ça a été pendant tout le XXe siècle une ville très industrielle. Et donc, ça fait 30 ans qu'il se pose, et l'administration et les gens, ils se posent la question de ce qui va passer de la ville après que la Fiat et toute l'industrie autour d'elle ne sont plus là. Et la production et le travail, c'est plus les mêmes. Et donc, on a bien observé beaucoup de projets de transformation. Je crois que par un côté, la ville, administration formelle, a été très importante dans les processus de transformation qui ont été bien d'un côté de la centralité de la ville, mais aussi bien focus sur ses périphéries à travers des projets urbains, de transformation Urban Act, financiers pour l'Union européenne. Mais pour l'autre, ça a aussi très bien passé pour la dédition de la société civile, mm-hmm. qui s'est organisée à travers des associations, des ASBL, et ça a été capable d'entrer vraiment un dialogue avec la ville de Turin, la ville comme administration, je dis, et la municipalité. Et donc, par exemple, ici, on a plusieurs des fois compté de ce qu'on appelle la rete delle case del quartiere, qui est le network des maisons des quartiers de Turin, et que c'est bien où, je crois, la vision de la transformation des différents quartiers de Turin, qui sont très différents entre eux, et parce qu'ils sont des lieux plein de gens ordinaires, mais bien citoyens actifs qui sont intéressés, et des associations déjà constituées pour qui parlent et s'occupent de ça. Et ça, c'était seulement la première.
Et du coup, là, ces projets de réhabilitation, tu penses qu'on peut considérer que leur réhabilitation se fait vraiment sur le principe des communs urbains ?
Peut-être que ça n'a pas été comme ça pendant les dernières années. Ça fait déjà 20 ans qu'on est en train de faire et qui a déjà transformé beaucoup de friches et beaucoup d'espaces social, pas seulement physique, de la ville. Maintenant, a fait possible que on est arrivé à parler de bien commun. Oui, la construction d'une idée, d'une vision qui a passé d'être celui de démocratie welfariste du XXe siècle à plutôt citoyenneté active, à plutôt une question vraiment de ce qui est public, ce qui est privé et ce qui est pas l'une, pas l'autre, parce que c'est pas une question de propriété. Et donc je crois que ce débat à ce moment-là, c'est très important à Turin et en Italie en général. Plusieurs des villes ont commencé à s'involucrer dans la constitution d'une charte qui puisse réguler les biens communs. Turin aussi l'a fait.
Et Turin a signé cette charte aussi.
Oui,
ouais.
Et chaque charte, c'est écrite et constituée dans chaque ville. Ce n'est pas toujours la même charte.
Ah, ce n'est pas toujours la même charte.
Non, ce n'est pas toujours la même charte. C'est tailored, c'est approprié pour les questions et l'intérêt de chaque territoire. Mais la vision, c'est bien la même.
Il y a quoi dans cette charte, par exemple ?
Il y a l'idée que les citoyens, comme individus ou comme groupe de citoyens, puissent se mettre en jeu et puissent faire la ville.
Et du coup, est-ce que chaque citoyen est amené à signer cette charte ?
C'est pas vraiment comme ça.
D'accord.
Mais à travers de cette charte, ça a été possible de lancer des projets. Comme celui d'EcoCity qu'on a bien débattu pendant l'échange, à travers lequel les citoyens peuvent proposer leurs mêmes idées et leurs mêmes actions, parce que c'est parfois aussi des choses très pratiques, sur comment améliorer et participer au bien-être de la ville. Jusque ces moments-là, n'a pas vraiment été possible parce que ça a toujours été conçu et pensé comme un service public. Qui doivent être rendus
comment les jeunes, ta jeune génération, voire même les plus jeunes, se positionnent par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont plutôt d'accord à l'idée de dire que la ville va se faire par eux? Ou est-ce qu'ils sont finalement un peu déçus de se dire qu'elle se fait avec eux et qu'ils avaient peut-être juste envie d'attendre que ça se fasse pour eux, comme ça se faisait avant, dans le côté plutôt protection?
Mon idée, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont grandi dans une condition dans laquelle elles et ils pensent à sa propre vie sur une conception très temporaire. C'est pour beaucoup de questions entre laquelle celui de la précarité, celui de changement du monde du travail, et donc ça fait peut-être ça le met peut-être dans des conditions de déception, de distance personnelle, mais surtout je crois ça fait qu'il bouge plus parce que le travail, les informations, ils sont pas si disponibles, si faciles à obtenir comme il était avant. Et souvent, ça passe à travers de l'engagement direct dans des actions.
Et est-ce que cet engagement direct risque pas, finalement, de couper en deux la jeune génération entre ceux qui sont conscients de tout ça et qui s'engagent déjà, et ceux qui n'en ont pas encore conscience, n'en auront peut-être jamais conscience et ne connaissent pas vraiment le sens du mot engagement?
Moi, j'ai vraiment l'impression de ça. Quand j'étais à l'université, j'ai eu la chance d'être élue représentante des étudiants dans plusieurs des mandats, et ça a toujours été un thème. Donc, comment on engage celui qui ne sont pas engagés lui-même? Et je crois que c'est quelque chose qui est en train de passer maintenant. Un changement de paradigme que quelqu'un voit pas, mais il faut le rendre visible. Il faut que les gens se sentent partie de ces changements, parce que sinon, l'impression que j'ai, c'est que ils restent attachés à une vision des paradigmes qui factuellement est plus là, ou quand même ils offrent pas les mêmes types de possibilités qu'ils offraient avant. Un modèle capitaliste qui lui invite à la consommation, lui invite à la production, mais finalement n'est pas balancé sur tous les niveaux, parce qu'on consomme si on a de l'argent et on a de l'argent si on a un travail, mais ce n'est pas vraiment toujours ce type de cycle-là. Mais donc, c'est nécessaire que les visions ils sortent de là, sinon les gens ils suivraient à chercher leur place dans la ville, dans le monde, à travers de ces modèles que c'est pas...
qui n'est pas pérenne, qui n'est plus pérenne.
Qui n'est plus pérenne. Et c'est pour ça que je crois vraiment dans le rôle de l'éducation de base, de la formation du niveau des plus petits. C'est pas seulement l'université, mais c'est déjà l'école secondaire. Je crois que c'est nécessaire de rendre possible à certains concepts, à certaines idées, de commencer à entrer dans la vision des gens, des jeunes.
Et toi, à ton niveau personnel, du coup, quels sont les projets dans lesquels tu t'engages ou tu t'es engagé et qui contribuent à faire avancer cette réflexion sur la participation et l'engagement de tous?
Oui.
Au-delà d'avoir été représentante, tu disais étudiante, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu as portés?
Donc, avec une amie qui s'appelle Angela Maria Osorio, on a eu la chance de penser à ce type de thème plusieurs des fois. Et à travers de la participation en contest international, que c'était Design the Urban Commons, c'est-à-dire le projet de les biens en commun, on a proposé l'idée de School of Losing Time.
D'une école pour perdre son temps.
C'est bien ça. Et parce qu'on a parti du raisonnement de c'est laquelle la ressource que tout le monde a. Et c'est pas l'argent, parce qu'on n'a pas les mêmes. C'est pas les niveaux d'éducation, parce qu'on n'a pas les mêmes. Mais le temps, on a vraiment la possibilité. Mais ça, on a besoin d'une change d'idée à travers
un changement de paradigme.
Changement de paradigme sur comment l'utiliser. Parce que si on revient vraiment attaché à une idée que le temps soit productif, que le temps soit argent, que le temps produise quelque chose d'utilisable, de profitable, bon, c'est pas forcément la seule manière de l'utiliser. Et donc l'école, pour apprendre à le perdre, c'était bien l'idée de changer vision sur ça. Et ce qu'on a proposé, c'est d'apprendre à jouer ensemble.
écoutez Comme un commun sur RPL.
Après ce petit intermède musical jazz, nous continuons à découvrir la réalité des communs à l'international. Nous avons entendu parler de la réalité belge, nous avons entendu parler de la réalité italienne. Nous faisons cette fois-ci un petit voyage hors d'Europe pour nous rendre compte que la question des communs urbains n'est pas juste une réalité qui est fort développée à Gand ou fort développée en Italie au travers de la charte des communs urbains, mais que c'est également une réalité à laquelle beaucoup d'autres pays commencent véritablement à s'intéresser. Bonjour Claudia, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens ?
Bonjour Stéphanie, merci pour cette invitation. Je viens de Belo Horizonte, c'est une ville au sud-est du Brésil, à 105 km de Rio vers le nord, juste pour situer. C'est pas une ville au bord de la mer, comme tout le monde rêve au Brésil, c'est dans les montagnes. Une ville minière, construite moderne dans le 19e siècle. Et là-bas, on dialogue un peu les buen vivir de l'Amérique hispanophone avec les biens communs et théorisés en Europe. Et dans les pratiques, on a plusieurs expériences qui ont voulu partager avec nous.
Donc tu parles de buen vivir, de commun urbain. C'est plutôt quelle terminologie qui est plus fréquemment utilisée quand on parle de ces réalités-là au Brésil ?
En fait, pour moi, c'était d'abord les expérimentations et après la conceptualisation de la démarche. J'ai commencé à faire des partages plutôt dans les actions. Par exemple, partager l'habitat dans l'Airbnb, partager les canapés comme couchsurfing. Après, les transports, covoiturage. Et avec un groupe très dynamique, des professionnels libéraux, on a développé des coworking, des crèches parentales, des expériences à petite échelle. Et donc, on a commencé par un besoin commun des habitants et qu'après, on a compris qu'il s'était inscrit aussi dans une réalité plus complexe dans notre pays. Et les buen vivir, par exemple, c'est quelque chose plus lié avec la nature, avec la décolonisation, inspiré et aussi mené par les communautés originales de l'Amérique du Sud. Dans quelques pays comme la Bolivie, l'Équateur sont plus développés et plus ancrés dans la loi aussi.
Et du coup, Belo Horizonte, c'est une ville plutôt industrielle. Est-ce que tu dis qu'elle s'est développée au 19e siècle ? Moi, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a une réalité similaire avec celle dont je parlais précédemment par rapport aux villes qui sont un peu partout en Europe confrontées à cette régénération des friches ? Est-ce que Belo Horizonte est en train de faire face à ces mêmes difficultés ou est-ce que ces industries sont encore des industries qui fonctionnent aujourd'hui ?
C'est une très bonne question. Ça me permet de raconter un peu l'histoire du Brésil, les colons. Vite fait. Les colons sont arrivés par la mer et du coup, petit à petit, ils allaient à l'intérieur pour découvrir d'autres richesses. Et à Minas Gerais, ils ont découvert l'or. Et donc, c'est une région qui a commencé à être développée par des mines de l'or. Et un peu plus tard, des mines de fer. Alors, avec la décadence de l'or, l'épuisement de mines, ils ont carrément laissé la ville, qui était la capitale, la première capitale de l'État. Ils ont construit une nouvelle capitale. Et donc, on n'a pas décidé de reconstruire cette ville coloniale et d'oublier un peu le passé et commencer à nouveau une ville avec un tracé planifié avec l'idée du moderne, des gros buildings, des espaces publics citoyens très
très lisses.
Oui, très de la société élite de l'élite et surtout une ville pour avoir le pouvoir de l'État pour changer vraiment et avec ça les débuts des industries de l'automobile, donc c'est une ville 100% pour l'automobile. qui on essaye de changer de petit à petit, mais c'est encore loin. Et dans mon dernier travail là-bas, c'était pas exactement à Belo Horizonte, parce que c'est une ville capitale et économique et juste administrative. Et autour de cette capitale, il y a des je sais pas combien, des centaines de minérations de fer qui sont encore en exploitation. Et le dernier travail que j'ai eu le plaisir de faire, c'était la reconversion de la première friche minière de fer qui était épuisée. Ça existe encore quelques minerais, mais économiquement, c'est plus intéressant de l'exploiter. Et donc, ils ont décidé de refaire un quartier, d'ouvrir cette mine, ces 60 hectares de mine qui étaient délaissés, qui étaient fermés depuis quelques années, pas beaucoup d'années. Et c'était des conseils d'urbanisme pour réfléchir quels sont les patrimoines existants à sauvegarder, quelle est la mémoire de cette mine et quels sont les habitants qui ont encore des relations sentimentales avec cet espace qui est clôturé et fermé pour la ville, vers la ville.
Et donc toi, concrètement, donc, Claudia, tu es urbaniste, architecte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel a été le projet sur lequel vous avez travaillé, comment vous avez impliqué les habitants? Est-ce que tu considères que cet exemple de réhabilitation est une bonne pratique ou qu'au contraire, ça reste une dynamique qui n'était peut-être pas encore suffisamment ancrée dans cette volonté de faire participer les habitants et dans cette logique de construire avec et pour les usagers?
C'est pas la même réalité parce que c'est encore un terrain privé. Alors ça change tout. Parce que la ville, elle est intéressée. L'Institut de patrimoine national, il est intéressé parce que la première mine du Brésil. Et tout le monde est intéressé dans cet endroit, mais il est privé. Et donc, chacun de son côté, plus ou moins de façon indépendante, réfléchissent pour cet endroit. Bien sûr, les privés, son but, c'est avoir un peu plus de profits. La ville, la collectivité, les buts, c'est inscrire cette ville dans les territoires. Et l'Institut de patrimoine national historique voulait sauvegarder cette histoire en savant qu'il quand même faut construire un quartier. Alors c'est quoi les directions urbaines de construire ces quartiers? Et alors c'était dans ça qu'on a travaillé. Et c'était compliqué, rien pour faire entrer dans la ville, dans les sites, les anciens travailleurs. C'était super compliqué parce que les propriétaires ne voulaient pas. Même si c'était lui qui nous avait embauché pour faire ce travail, les propositions de mettre le citoyen déjà dans le terrain, c'était pas facile parce qu'il a des soucis de sécurité. C'était encore en train de nettoyer, des choses comme ça. Mais on a réussi quand même. On a fait des cartes mentales.
Donc la problématique des cartes mentales est également présente à Belo Horizonte.
Oui, c'était une proposition qui au début c'était un peu compliqué. Et quand on a commencé à faire, c'était très intéressant. Les gens arrivaient là-bas et disaient « Ah, il y a 15 ans que je ne viens plus ici. » Ils commençaient à pleurer, penser dans des profondeurs de mine qu'ils y allaient. C'était magnifique. Après, c'était pour décider c'est quoi les bâtiments qu'on va garder, c'est quoi les bâtiments qu'on peut détruire, qui ont moins d'importance.
Et aujourd'hui, par rapport à tes missions que tu as développées au Brésil, te voilà lilloise. Est-ce que cette réflexion urbaine te tient à cœur? Est-ce que tu essaies de continuer à développer des projets similaires depuis que tu es arrivée ici?
Oui, depuis que j'ai arrivée ici, j'ai décidé de ne pas aller dans les privés tout de suite. C'était un désir à moi d'aller vers la construction partagée de la ville, de comprendre qu'est-ce que c'est les communs urbains et comment développer ça d'une façon professionnelle aussi. Et donc la décision, c'était faire une association qui s'appelle Collectif 15 Alors. C'est une association de la loi 19001 commencé par deux personnes, moi-même et une autre architecte brésilienne qui est basée à Lille depuis 8 ans, avec un désir de faire un parallèle entre les spontanéités des projets en Amérique du Sud et aussi l'expérimentation urbaine dans la ville de Lille.
Et en ce moment, vous avez une animation particulière pour ce mois de décembre. Peux-tu nous parler un petit peu de ce qu'il en est ?
On a décidé de faire un petit outil de lien social qui on a appelé les calendriers de l'Avent. C'est pas un nom très original, mais l'idée est, c'est de faire les calendriers des rencontres des acteurs au centre-ville. C'est les territoires qu'on réfléchit à Lille, c'est les centres-villes de Lille. Et donc à chaque jour, on met lumière sur une rencontre déjà en place, des sujets, des villes en transition, des communs, des coworking qui font quelque chose de spécifique, ou même des cafés comme les cafés citoyens qui a fait une journée de réappropriation. Donc on met tout, et aussi on propose quelques animations. Il c'est toujours 15 minutes de sympathie. C'est le chiffre 15 du nom du collectif. C'est la ville des proximités, la ville à 15 minutes. Et donc pour ce mois de décembre, c'est 15 minutes de sympathie à chaque jour.
Et donc par exemple, vous avez un axe particulier sur lequel vous avez envie de travailler, c'est les carrefours.
Oui, ça c'est... C'est une activité qu'on a envie de travailler pour 2018. Et donc, dans les calendriers de décembre, on va passer dans deux carrefours qui sont un petit peu moches, qui ça pourrait être amélioré par les habitants d'une façon très légère, très éphémère, ou même très infrastructure et plus loin. Après, ça dépend de qui est-ce qui veut travailler sur ça. Et donc, pour parler de ces sujets, on a décidé une rencontre le 17, le dimanche, pour faire sourire les carrefours des rues de Tormonde avec les rues de Bûcher. Et aussi les 23, un samedi, il y a le croisement de rue d'Hôpital Militaire devant la mairie de quartier du centre-ville, qui aussi, c'est un grand espace qui ça peut être amélioré.
Donc, un mois de décembre chargé, un mois de décembre chargé qui en même temps nous permet aussi de faire le lien avec l'agenda des communs et notamment sur la question urbaine. Le 15 décembre, donc vendredi après-midi, Cité Mix aura l'occasion d'accueillir à la Maison de l'Habitat Durable une conférence sur l'intégration des savoirs citoyens dans les projets d'équipement et les projets d'urbanisme. Et au mois de janvier, on continuera la question sur l'appropriation citoyenne de la ville en lien avec le voyage, puisque Interphase coordonnera le Festival des voyageurs alternatifs du 17 au 21 janvier, l'occasion de parler de voyager autrement ici, de voyager autrement là-bas, en lien avec l'hybride, en lien avec le service civil international, en lien avec RPL et pas mal d'autres structures associatives de la métropole. Voilà, merci beaucoup pour cette émission qui était consacrée au commun urbain à l'international et on se quitte en écoutant Taraf de Haïdouk et le Kochan Orchestra. We'll be right back.
Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.